Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission, une émission dans laquelle nous allons parler d'histoire à travers une revue annuelle que vous connaissez bien. Il s'agit de la revue La Main Chaude, qui revient sur les luttes sociales qui ont traversé les époques dans la région du Larzac, et principalement à Millau. La 12e édition de cette revue sera disponible à l'achat dans les librairies à partir du 1er mai 2026. Pour en discuter, nous recevons deux membres et même trois de l'association pour la promotion de l'histoire sociale millavoise, à l'origine donc de la création de la revue La Main Chaude, qui sont Gilles Gesson, Antoine Loubière et Didier Muller. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'association et votre rôle au sein de celle-ci ?
C'est moi qui vais prendre la parole, mais je suis le petit nouveau, le petit dernier. Donc l'association pour la promotion de l'histoire sociale de Millau, donc on est à sa 12e, comme tu l'as dit, publication. Donc ça fait par définition 12 ans que ça existe. Et donc c'est un travail de mémoire, un travail d'historien. Alors je le dis d'autant plus simplement que même s'il s'agit d'un travail collectif, moi je ne suis pas spécialement un des rédacteurs attitrés. Ma spécialité c'est autre chose au sein de l'association. Mais c'est un véritable travail d'historien. En ce sens que ça commence par bien évidemment le choix des sujets. Donc ils sont, chacun a des idées qu'il transmet à la collectivité de l'association, donc la décision est prise collectivement. Et une fois qu'un sujet a été choisi, donc il y a un travail sur les archives, alors que ce soit sur les archives municipales, départementales, voire nationales, y compris un travail sur les archives qui sont disponibles sur Internet. Et donc c'est vraiment des recherches originales qui sont faites. Je pourrais même dire que ce sont des scoops. Puisqu'il y a plusieurs articles qui n'ont pas remis en lumière, mais mis en lumière des passages de l'histoire sociale de Millau et de ses environs qui étaient dans l'ombre. Quoi. Voilà. Donc le but, c'est ça, de l'association à travers la publication de cette revue. C'est aussi faire preuve en toute humilité de pédagogie, c'est-à-dire de faire partager les choses que l'on découvre, même parfois avec étonnement en ce qui concerne ces recherches. Et puis c'est aussi de faire un lien avec le présent, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité au passé. Alors bien évidemment, on évite aussi cet argument que moi, personnellement, je qualifierais de café du commerce, à savoir la connaissance du passé permet de prévoir l'avenir, etc. C'est pas aussi simple que ça. Mais à partir du moment où, même si l'histoire ne se répète pas, à partir du moment où les mêmes courses produisent les mêmes effets, et c'est aussi une ligne qu'on a au sein de cette association et de cette de revue, c'est avec le passé de mettre parfois en perspective aussi ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui se prépare éventuellement. Ça, c'est le but de notre travail.
Et donc, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de faire le lien, et on le voit avec l'éditorial qui est assez engagé, de faire le lien entre l'actualité et le travail historique, et de mettre en lumière donc, des événements qui soit se répètent, ou des événements nouveaux dont les gens n'auraient pas connaissance sur l'histoire sociale du Larzac et de Millau. Et pourquoi c'est important, finalement, de relier cette histoire locale aux enjeux contemporains. Est-ce que vous pensez que certains événements, compte tenu de l'actualité, d'autant plus en ce moment, pourraient se répéter ?
Moi, je pense que oui. Par exemple, on a un article donc, qui est consacré à un personnage, une figure millavoise des années 30, qui est François Martin. Donc, qui a été élu local, et puis ensuite, qui a eu une certaine dérive politique, on va dire. Et quand on fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, alors là je parle pas spécialement du cadre local, du cadre millavois, mais en essayant d'élargir un petit peu la focale, on a l'impression que, bon, ça c'est mon interprétation personnelle, hein, c'est-à-dire que c'est pas spécialement partagé, on n'a pas fait une réunion de préparation avec les collègues, mais je sais pas si vous à Millau dans la vallée vous le voyez, mais moi j'habite sur le Larzac et à l'horizon, je commence à distinguer un vol noir qui s'approche doucement. Et donc, effectivement, il y a des parallèles à faire. Et je pense, c'est toujours mon opinion personnelle, que le grand problème, c'est que on a, et je peux aussi m'inclure dedans, hein, j'ai pas la prétention de penser à autre chose, mais on a un petit peu une mémoire sélective, si ce n'est une amnésie sur certains sujets. Voilà. Et je pense que l'utilité du travail qui est fait par la main chaude, c'est de rappeler tout ça et puis de toujours en toute humilité, essayer de faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Le but est, effectivement, tu l'as rappelé, on a une mémoire sélective, c'est de ne pas se voiler la face et de ne pas être dans le déni de ces événements qui ont pu se passer et qui pourraient se répéter si on n'apprend pas de nos erreurs et si on n'étudie pas ce qui s'est passé pour le passé pour faire mieux dans l'instant présent et pour le futur.
Bien sûr. Et puis ça vaut dans tous les domaines, hein. Domaine écologique, etc. quoi.
Exactement. Ouais. À travers ce numéro, vous revenez notamment sur les débuts de la lutte contre l'extension du camp du Larzac avec la manifestation du 9 mai 71. Pourquoi est-ce que ce moment, il vous semble important à remettre ou à mettre en lumière aujourd'hui? Est-ce que c'est dans l'idée de retracer petit à petit la manière dont c'est construite la région du Larzac et la ville de Millau?
C'est-à-dire que la lutte du Larzac, la lutte des paysans du Larzac est devenue une sorte de légende, pour ne pas dire un mythe, quoi. Et donc, en fait, les conditions, finalement, de réussite de cette lutte, qui a quand même duré 10 ans, ce qui n'est pas rien à l'échelle de la vie des gens, hein, et de la vie politique dans un pays comme la France. Bah, cette lutte, elle recouvre une série de, peut-être, de choses, si ce n'est méconnues, en tout cas, peut-être oubliées en partie. Et effectivement, cette première manifestation contre l'extension du camp du Larzac, le 1er mai 1971, elle n'est pas le fait des paysans qui sont pas encore, qui n'ont pas encore fait leur serment des 103, qui n'ont pas encore vraiment structuré leur groupe. Elle est le fait d'individus très engagés, de militants mis la voix, en lien avec une série d'organisations qui n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui, hein. Par exemple le PSU, qui était un petit parti de gauche qui avait été créé en réaction à la guerre d'Algérie, le mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté, qui s'appelait aussi Mouvement contre l'armement atomique, qui était un mouvement créé contre la force de frappe que le général de Gaulle avait développé à partir des années 60. Bon, le Secours Rouge, qui avait été créé à l'époque par l'extrême-gauche en solidarité avec une série de militants, notamment maoïstes, qui étaient emprisonnés. Le Lutte Occitane, qui était un jeune mouvement occitaniste, mais qui se situait délibérément dans une perspective de révolutionnaire. Enfin, bon, après, il y a d'autres forces politiques plus traditionnelles, comme le Parti Socialiste ou la CFDT à l'époque, la FOL, enfin bon, qui se sont aussi associés à cette manifestation. D'autres, d'ailleurs, s'étaient tenus à l'écart, le Parti communiste et la CGT, qui étaient à l'époque très méfiants à l'égard de tout ce qui relevait un peu de ce qu'ils appelaient les groupes gauchistes. Enfin, et donc, on a une manif, d'ailleurs, qui a un succès qui dépasse l'idée qu'en avaient les organisateurs. Il y a plus de 1500 jeunes qui viennent de toute l'Occitanie, principalement, et qui marchent, font 5 km sous le soleil du Raja del Guarpa à la cavalerie, et puis après qui discutent entre eux. Et qui, enfin, on a retrouvé quelques photos. Il y a des chanteurs occitans, Mas de Breich, c'est Patrick, etc. Et moi, je dois vous dire qu'à l'époque, j'étais lycéen. J'étais lycéen à Rodez, j'avais 16 ans. Et le souvenir que j'ai gardé de cette manifestation, c'est le chanteur occitan Patrick, qui chantait une chanson qui s'appelle « Moonfry Rolennomic », qui est une chanson qui parle... c'est un jeune paysan qui s'adresse à son frère, et son frère est devenu CRS. Et mon frère, l'ennemi, c'est « Moonfry Rolennomic », c'est d'abord une très belle chanson, et puis c'est une chanson qui exprime un déchirement qui pouvait être celui, aujourd'hui, à l'époque, de jeunes qui cherchaient du boulot, parce que c'est le début d'un moment difficile, hein, pour l'Occitanie, pour Millau. La principale ganterie va fermer au printemps 71, avec plus de 1500 emplois qui seront supprimés. Enfin, bon, dans le même moment historique, il y a des mouvements des viticulteurs, ce qui explique la chanson du chanteur Patrick fait plutôt allusion à ce type d'événement, où des viticulteurs qui s'affrontent à des CRS à Béziers en février 1971. Et voilà, donc il y a un moment historique qui est un peu oublié, quoi. Et c'est vrai que c'est dans la vocation de la main chaude de faire ce travail qu'on appelle mémoriel. Alors en plus, peut-être juste pour terminer là-dessus, on a combiné finalement un article qui est une sorte d'enquête un peu historique, et puis le témoignage d'un des principaux organisateurs de cette manifestation, Robert Siméon, qui a la chance, que nous avons la chance d'avoir toujours vivant à Millau, et qui est un vieux militant d'une certaine manière, et dont le militantisme a commencé par le refus de partir à la guerre en Algérie, quoi. En 1961. Il restitue un peu son parcours de militant, en tout cas du refus de la guerre d'Algérie, à la manifestation, à cette première manifestation contre l'extension du camp du Jordan.
Il y a un regard également sur des périodes électorales passées avec plusieurs désillusions politiques. Est-ce que, selon vous, les politiques actuelles et les citoyens qui élisent leurs représentants vont tirer les enseignements des échecs passés et pourront permettre à la société de croître et de s'améliorer?
Vaste
c'est une question très complexe.
Oui.
J'en conviens.
On a combien d'heures?
Vous avez 4 heures.
4 heures, d'accord. Personnellement, je pense que, comme j'ai dit, quel que soit le domaine, c'est indéfini, on n'arrive pas à tirer les leçons du passé, quoi. Bon, par exemple, ne serait-ce que quand on voit ce que je me permets d'appeler toujours personnellement le cirque Pinder des futures présidentielles, où on en est à 36 candidats, je crois, et quand on voit, enfin, on assiste à un retour vers le futur, quoi. Quand on voit certains candidats qui devraient se cacher, se remettre en lumière, on a l'impression que c'est un éternel recommencement, quoi. Et effectivement, donc, on a pris l'exemple, donc c'est un exemple un peu plus ancien, donc de Pierre Hercule Ferdinand Calvernia, donc qui était un élu sur Millau. Et déjà, on voit toutes les magouilles qui peuvent être mises en place pour des avantages électoraux, etc. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas vraiment changé. Il y a une très très belle photo qui illustre ce personnage dans la revue. Il y a aussi un travail iconographique qui est assez intéressant. Donc Antoine a parlé des photos de la première manifestation. Je crois que c'est presque un scoop qu'on puisse publier ces photos, mais il y a aussi des recherches iconographiques sur des vieux documents, des vieilles photos, et puis celle de Calvernia est magnifique, très Second Empire, un peu, mais si on retire le costume, je crois qu'on pourrait retrouver n'importe quel autre candidat, quoi. Voilà. Alors après, bon, moi personnellement, j'ai pas à me dresser en donneur de leçons de morale, faut-il voter, pas voter, etc. Ça, c'est un débat, et on n'a pas 4 heures.
Non, les citoyens sont libres de voter
totalement
pour les candidats dont ils souhaitent, d'autant plus que là, on a plus d'une trentaine de candidatures, sans compter les candidats qui ne se sont pas encore officialisés. Donc oui, il y a le choix. Il y a même trop de choix parmi tous les candidats. On découvre aussi des parcours de figures locales, parfois des figures qui sont méconnues. Est-ce qu'il y a aussi un objectif de redonner une voix à ces personnes-là qui font partie peut-être des oubliés de l'histoire?
En ce moment, les gens ont tendance à oublier beaucoup de choses. Donc, leur rappeler, ne serait-ce que les figures locales, c'est bien, au même titre que les actions locales qui sont passées. Donc, il faut de temps en temps, même souvent, et là, c'est un peu votre rôle aussi, de remuer la cuillère dans le pot, comme on dit.
Oui, exactement.
Ouais. Donc, il faut le faire, et la main chaude le fait sérieusement, qu'une fois par an, mais c'est suffisamment. On aimerait le faire plus, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles?
On n'a pas le temps, c'est vrai, mais pendant un an, on ne chôme pas, quoi.
Oui, non, mais on n'a pas le temps. On serait plus nombreux, on le ferait, mais là, on ne peut pas.
C'est vrai qu'il faut avoir le temps et les moyens,
de le faire. Oui, on les trouve, les moyens. Surtout des vieux comme nous. Hein. À la retraite, on le trouve, le temps.
Faut bien qu'on se tue.
Il faudrait des jeunes aussi pour leur apprendre, pour leur passer les clés, quoi.
Et justement, est-ce que vous avez des retours sur cette revue? Ça fait 12 ans qu'elle existe maintenant. Est-ce que vous avez un aperçu de ce que les Miaouaises et les Miaouas en ont pensé, de ce que ça a pu leur apporter également, du point de vue culturel et historique?
Mais à compter dès qu'on annonce la sortie de la revue, les gens la demandent et ils nous disent quand est-ce qu'elle sort. Donc ils sont demandeurs.
On n'imagine pas qu'il y aurait des émeutes dans les rues de Millau si la main chaude n'était pas en vente le 1er mai.
Non, mais enfin.
Mais le 2 mai, mais on préfère pas tenter. Voilà.
Et oui, le 1er mai, évidemment, c'est une date symbolique.
Ce serait bien une émeute le 1er mai, quand même.
Non,
ce serait pas mal. Et que la main chaude en soit responsable, quel pied.
Et alors, bien, au niveau de la répercussion publique, entre guillemets, bien évidemment, il y a aussi la recherche des points de vente. C'est-à-dire que c'est à nous d'aller trouver les points de vente qui acceptent, mais aussi d'agrandir, même si, bien évidemment, notre association est une association sans but lucratif, ça va de soi. Mais le but, c'est de faire vivre cette revue, donc pour qu'elle soit lue, premier point. je vais pas répéter tout ce qu'on a dit en termes de pédagogie, etc., mais aussi pour avoir les moyens de continuer, parce que voilà, même si on est tous bénévoles, ben ne serait-ce que l'imprimeur, lui, ben il faut le payer. Donc il faut vendre cette revue. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons-là, pédagogique et économique. Et donc on a des points de vente sur Millau, sur Saint-Affrique, sur Rodez, maintenant.
Et la maison du livre à Rodez,
oui. Nantes.
À Nantes, ouais. Et puis voilà, on essaye d'étendre un petit peu, quoi.
Dans cette édition, vous proposez un poème occitan assez particulier qui est accompagné de sa traduction française. Et avec mon co-animateur, on a eu l'occasion d'en parler dans notre émission Manda, qui est une émission bilingue en occitan et en catalan, qui passe, j'en profite pour faire une petite promotion, une petite parenthèse, qui passe tous les troisièmes jeudis du mois. Et qui est également disponible en podcast sur notre site internet radiolarzac.org. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'intégrer ce texte dans la revue, en occitan bien sûr pour faire vivre la langue, et pour montrer le poème tel qu'il est, de manière originale et de manière authentique, et plus largement, quelle est la place qu'occupe la langue et la culture occitane dans la mémoire et dans l'identité du territoire du Larzac?
Moi, je pense que la langue occitane, bien évidemment, a une place très importante à Millau, sur le Larzac aussi. Et donc, une revue qui revendique d'être la vitrine de la mémoire de la ville et de sa région se doit d'avoir des passages en occitan. Alors bien évidemment, comme tous nos lecteurs ne sont pas occitans, donc l'idée de faire cette édition bilingue s'imposait. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ce poète prolétaire, donc Henri Terral. Donc voilà, ça m'a permis personnellement de le découvrir. Après, je dois avouer qu'en termes de correction, ça n'a pas été évident du tout. C'est-à-dire corriger le français, oui, mais corriger l'occitan, il faut connaître, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas tous l'accent, ne serait-ce qu'à Véronée, ici, dans l'équipe. Mais voilà, c'est important. C'est important d'avoir cela. Et puis surtout, parmi nos collègues de l'association, ben, nous en avons une bonne partie qui sont férus d'occitan et qui parlent occitan, quoi. Donc c'était une évidence qu'on essaye de répéter le plus souvent possible. Après, ça dépend des sujets qui sont choisis.
Et puis Millau, moi qui suis natif de Millau, dans ma jeunesse, beaucoup de gens parlaient occitan, patois, plutôt patois, parce que l'occitan, c'est le patois est une divergence du...
Oui, il y a l'occitan qui est un dialecte, et ensuite il y a plusieurs patois, branches de l'occitan.
Malheureusement, il en reste de moins en moins, mais moi jusqu'à l'âge de mes 10-15 ans, le patois était... Le commerce, c'était un patois... Les foires
du faisait cimier, partie du quotidien,
c'était
finalement.
Patois, c'était le quotidien. Et c'était prolétaire aussi. Et les patrons ne parlaient pas patois.
Et non, il y avait aussi la hiérarchie sociale,
oui, oui.
Les différences de classe sociale se notaient, se caractérisaient également
bien
par
sûr.
La langue.
Oui, oui.
Pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs, à nos auditrices, pour qu'ils se procurent la revue? Et est-ce que vous diriez que c'est une revue... Je pense connaître la réponse, que c'est une revue d'utilité publique d'intérêt général. Et même, je dirais, au-delà du Larzac et au-delà de l'Aveyron.
On commence à partir un peu plus que hors de l'Aveyron quand même, mais d'intérêt général...
Ce serait peut-être un
peu prétentieux quand même.
Prétentieux. Ouais. Cela étant, alors ce n'est pas le cas dans...
Ça reste un aspect de l'histoire de France malgré tout.
Oui, et oui. C'est vrai que sur la revue de cette année, ce n'est pas le cas, mais on a déjà eu des intervenants extérieurs. Donc notamment des professeurs d'université qui sont spécialisés dans l'histoire, pas spécialement l'histoire millavoise, mais qui ont entendu parler de la revue et qui n'ont fait aucune difficulté quand on est allé les contacter pour nous rédiger des articles. Dans le dernier numéro, c'était concernant...
C'est Jacques-Henri Coste. Enfin, dans le précédent numéro, c'est Jacques-Henri Coste qui avait écrit une très belle contribution sur le maquis Birakem,
voilà.
Qui lui était un maquis itinérant, qui n'était pas que dans l'Aveyron, qui a contribué à la libération de Montpellier en particulier. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, d'ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, il y a un certain nombre d'ouvrages d'histoire populaire de la France. Par exemple, Gérard Noiriel, grand historien du mouvement ouvrier, a publié une histoire populaire de la France. Il y a plusieurs histoires populaires qui sont en chantier. Et donc, moi, je pense que, d'une certaine manière, on s'inscrit dans cette démarche historique de redonner la parole à ceux d'en bas, à ceux qu'on a oubliés, à ceux qui ont été humiliés, écrasés, à ceux qui ont résisté, qui se sont battus pour leurs idées, pour l'émancipation, en particulier de la classe ouvrière, au temps où on pouvait parler du mouvement ouvrier. Maintenant, on en parle un peu au passé, même s'il y a toujours des mouvements syndicaux, il y a toujours un certain nombre de batailles pour préserver l'emploi dans des usines, etc. Mais on est dans des phases beaucoup plus défensives, quoi, de l'histoire populaire, de l'histoire ouvrière. Et donc, redonner un peu de la chair et à ces combats et à ces histoires du passé, à ces figures du passé, à ces figures résistantes, parce que, il faut le dire, en fait, finalement, Millau, le Sud Aveyron, c'est des terres de lutte et de résistance. Et finalement, la lutte du Larzac s'est inscrite dans cette histoire-là, hein, héritée de la résistance au nazisme, au combat contre le régime de Pétain, mais aussi les grandes grèves ouvrières, même si elles ont été défaites en 1935, les grandes grèves des Gantiers. Bon, il y a une série de combats comme ça dont on restitue finalement la mémoire. Et c'est pas dans une perspective de nostalgie, c'est pas on est plutôt dans un...
Vous êtes dans la transmission.
Voilà. Oui.
Et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup,
Gilles, Antoine
et Didier, d'avoir été avec nous et d'avoir eu la gentillesse de répondre à mes questions.
Avec plaisir.
Nous vous rappelons que la revue La Main Chaude, donc éditée par l'association dont vous faites partie, sera disponible dans les librairies et sur la place de la Capelle, évidemment, le 1er mai.
Pour éviter les émeutes.
Voilà.
Pour éviter les émeutes et créer un moment convivial. Vous pouvez la retrouver à Saint-Affrique, à Millau et à Rodez. Autrement dit, vous n'avez pas d'excuses pour vous la procurer, elle est forcément à proximité. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'association et suivre son actualité, n'hésitez pas à vous rendre sur leur page Hello Asso. A noter que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiolarzac.org. Il est à écouter et réécouter, c'est à volonté, sans modération, comme je le dis à chaque fois. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement dans l'émission Manda. Merci pour votre écoute, portez-vous bien.